Petits éclats de lire.
Petits éclats de lire.
Petits éclats de lire, une émission de l'association Éclats de lire et Fréquences Mistral pour présenter nos coups de cœur d'albums jeunesse, coups de cœur choisis en comité de lecture. Ce comité de lecture est ouvert à tous et se tient les premiers mardis de chaque mois, soit au centre Giono où siège l'association, soit à la librairie Poivre d'Âne. Vous avez les dates de nos comités de lecture sur le site éclatsdelire.eu. C'est le dernier de la saison. Nous reprendrons en octobre, le premier mardi d'octobre. Mais vous trouverez tous ces renseignements sur notre site, le premier mardi de chaque mois à 18h30. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter nos derniers coups de cœur avec Michel Nechati, qui est volontaire européen turc en service auprès de l'association depuis déjà presque un an. C'est bientôt terminé.
Oui.
Avec Emma, qui est en stage avec nous, qui est élève à Sciences Po et qui passe un mois avec nous. Et avec Daniel. Voilà.
Et avec Laetitia.
Oui, avec Laetitia.
Et Marisa.
Et Marisa.
L'histoire du renard qui n'avait plus toute sa tête.
Alors Michel, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous présenter ?
Je vais vous présenter l'histoire du renard qui n'avait plus toute sa tête. C'est un texte et des images de Martin Baltscheid, adapté de l'allemand par Bernard Friot. Et avant de vous conter l'histoire du renard, je voudrais vous parler un peu de Bernard Friot. Bernard Friot est venu à la médiathèque de Digne et nous avons eu la chance d'y être invités. Bernard Friot a une grande expérience des rencontres avec des enfants et la lecture de livres en France, en Allemagne, en Italie. Il nous a fait part de cette expérience. Il a pu nous préciser que dans la lecture avec les enfants, ce n'était pas le contenu du livre le plus important, mais la relation entre l'enfant, l'adulte et le livre. Chaque livre est bien plus que son contenu de mots. La situation forte d'être proche d'un adulte qui raconte un livre, rien que pour celui qui l'écoute, donne envie à certains enfants de la reproduire encore et encore, parfois toujours avec le même livre. Donc Bernard Friot a adapté de l'allemand l'histoire du renard qui n'avait plus sa tête. C'est un magnifique renard, donc je vais vous faire des petits bouts de lecture, qui transmet au renardeau tout son savoir de renard. Le renard devient vieux, sa barbe blanchit, son corps se couvrit ici ou là de cicatrices et sa mémoire commença à flancher. Et là commence une description précise de la maladie d'Alzheimer. Renard confond les jours. Quand il a une idée, il la perd en route et il doit retourner à l'endroit où elle lui était venue. Il oublie les anniversaires, il ne trouve plus son chemin pour rentrer chez lui. Une autre fois, le renard était à la chasse et il oublie de chasser. Mais les renardeaux sont toujours là et prennent soin de lui. Ils lui soignent ses blessures, lui font à manger. Mais impossible de soigner sa tête, car le renard l'avait perdue et personne ne savait où exactement. Et à partir de ce moment-là, dans le livre, le numérotage des pages se perd. On passe de la page 14 à la page 21, on revient à la page 19. Les poules, les moutons se moquent bien de renards. Le renard se mettait en colère, puis les pourchassait pour les dévorer. Et après quelques mètres, il oubliait la raison de sa colère et leur souhaitait une bonne journée. Et voici en quelques lignes, quelques images décrites cette maladie si commune chez les grands-parents devenus très vieux. Et les renardeaux, avec leur attention, leur tendresse pour vieux renards, montrent que les émotions, l'affection, les bons souvenirs restent présents dans cette maladie jusqu'à la fin de la vie. Je pense que c'est un livre important. Dans les familles où on a rencontré cette maladie, c'est une autre façon d'en parler qui fait que chacun accepte mieux le vieillissement de tous.
Oui, le nom de maladie d'Alzheimer n'est jamais prononcé. C'est juste la perte de mémoire.
Voilà. Mais il a perdu sa tête.
Voilà.
Mais où est la tête du renard ?
Eh oui.
On sait bien que tous les gens qui vieillissent deviennent chercheurs. Où sont mes clés ? Où est ma tête?
Et c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas très souvent abordé et qui est pourtant très présent. Et beaucoup de petits-enfants, et ils sont confrontés comme leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents.
Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est vraiment très précis, mais c'est fait avec, je dirais, de la tendresse. Mais c'est vraiment très bien décrit. C'est ce qu'il faut savoir. Et je trouve ça remarquable que ça passe dans une si jolie histoire de renard et renardeau.
Animaux médocins.
Et maintenant, Nechati, tu vas nous présenter un livre un peu particulier, je crois.
Oui, dans cette émission, je vais vous représenter un livre documentaire sur les animaux sauvages. Le livre, il s'appelle « Animaux médecins », donc publié chez Albin Michel Jeunesse. Et ce livre, il a deux auteurs, en fait, qui s'appelaient Angie Thirius et Marc Thorin. Angie Thirius est un docteur et médecin vétérinaire. Et Marc Thorin est une neurologue et chimiste. Donc, en cette raison, c'est un peu particulier, cet livre.
Ce n'est pas des auteurs jeunesse habituels.
Oui, et je pense que c'est le premier livre qu'ils ont écrit pour les jeunesses. Mm-hmm. Et l'illustrateur de ce livre est Julia Antonio Blasco. Si on parle de livre, cette livre parle de questions comment font les animaux sauvages lorsqu'ils sont malades. Ils donnent les réponses, en fait, dans les livres. Et il y a 14 animaux comme exemple, comme on peut dire, comme les fourmis, le capucin moin, le papillon monarque, le gorille des montagnes, le chimpanzé, l'ours brun, le rhinocéros, etc.
L'éléphant.
L'éléphant aussi, l'éléphant d'Afrique. Et on dit que ça parle de comment font les animaux sauvages lorsqu'ils sont malades. Et en tout, c'est que quand nos animaux domestiques sont malades, on va à la vétérinaire. Oui. Mais pour eux, il n'y a pas la vétérinaire.
Et non.
Oui, malheureusement.
Il faut qu'ils se débrouillent tout seuls.
Oui. Mais en fait, ils ont la chance parce qu'ils ont la plus grande pharmacie.
Du monde.
C'est la nature. donc, ils font des médecins.
Des médicaments.
Médicaments eux-mêmes. On peut donner un exemple, par exemple. Pour les chimpanzés, il y a une réponse. Il y a une question d'abord. C'est-à-dire, comment font-ils? On voit dans chaque animal cette question.
Comment après, ils font?
Comment font-ils?
Ah, comment font-ils?
Oui. Après cette question, toujours il y a une réponse. Dans chaque page, pour chaque aliment, en fait. Les chimpanzés avalaient des feuilles d'aspilia entières. Ils les mettaient dans leur bouche, les pliaient en deux avec leur langue, puis les avalaient tout rond pour qu'elles descendent directement dans les intestins. Ils prenaient ce traitement tous les matins au réveil. C'était un exemple.
C'est vraiment. Mais oui. Ça, c'est pour nettoyer les intestins, c'est
bah
ça
oui,
pour,
exactement.
Si pour enlever les parasites,
oui.
Etc.
Oui, oui, exactement. Je trouve c'est génial parce que quand j'étais petit, j'ai toujours pensé qu'est-ce qu'ils font les animaux sauvages dans la nature, tu sais.
À part comment manger ils et dormir.
Oui, c'est pour nous c'est vraiment loin. Ouais. C'est une vie vraiment loin, donc on ne sait pas exactement. Pour les enfants, je trouve que c'est très intéressant pour l'apprentissage de la vie des animaux sauvages. Donc, en cette zone, j'aime bien ce livre. Je suis content qu'il est dans notre coup de cœur, en fait. Et pour les dessins, on peut dire, pour l'illustration, c'est vraiment joli, je trouve, avec le feutreuil.
Oui, feutre.
Feutre.
Les crayons en feutre.
Avec les crayons en feutre.
Même stylo à billes.
Oui, c'est oui, possible. Ouais. Avec des animaux qui ont toujours l'air quand même assez espiègles. Et, alors, il y a un dessin de l'animal assez, comment
coquin.
Dire coquin. Et puis, il y a parfois l'image de l'animal que vous trouverez dans une encyclopédie, enfin, réelle. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a un petit volet, après, sur chaque page, et il y a comme une ordonnance, une prescription médicale, comme une posologie, en fait, qu'on trouve dans les boîtes de médicaments. Donc, il y a pourquoi le médicament est fait. Par exemple, là, c'est le nettoyage des intestins. Après, le médecin, ben, c'est docteur chimpanzé. Et après, c'est avaler des fleurs d'aspilla entières tous les matins, au petit matin. Voilà, donc c'est à la fois scientifique, à la fois humoristique.
Humoristique, on peut dire.
Alors, ça doit être inscrit dans leur gène, dans leur, ils savent ça comme beaucoup, oui, beaucoup oui. de choses que savent les animaux à la naissance.
Certainement,
ils,
oui.
Ils savent ce qu'il faut prendre, comment il faut le prendre et...
Ah, il n'y a pas une fac de médecine
Il n'y a pas de chez les animaux, je crois pas.
Ah bon?
Peut-être, mais peut-être qu'on l'ignore.
Ben oui, on
il y
sait
a
pas.
Peut-être des symposiums, peut-être, des congrès de médecine.
Peut-être des chimpanzés. Probablement.
Mais c'est intéressant aussi pour les hommes quand même, parce que on y revient, et puis il y a une vraie médecine quand même des plantes traditionnelles, et je pense que doit y avoir des recoupements dans les traitements. Qui sont indiqués dans le livre,
oui, oui.
J'imagine.
On encore utilise comment dire, les traitements naturels. Encore.
Je trouve très intéressant que tu aies rappelé que quand tu étais petit, tu te demandais toujours comment les animaux se soignaient. Parce que je pense que les enfants s'interrogent vraiment là-dessus. Et donc là, on a des réponses qui sont très claires et des réponses de scientifiques. Donc je trouve ça vraiment intéressant, moi aussi, comme livre. J'ai trouvé que c'était une heureuse surprise.
Absolument. Et puis, c'est pas si souvent qu'on tombe en amour avec des documentaires.
Oui, oui, c'est vrai.
Donc, c'est un beau livre que tu nous as présenté, Chatty.
Il est fait de telle façon qu'on a vraiment envie de regarder chaque page.
Oui, oui.
C'est pas savant. Mais on a envie de regarder chaque page pour savoir.
C'est un peu savant. Hein.
Par curiosité.
Un peu savant.
C'est un peu savant, oui, parce que ça donne bien le vrai nom du médicament et son utilisation. Mais je veux dire, ça ne va pas quand même... C'est tout à fait accessible.
Ah oui. Alors, les traitements sont très variés pour l'éléphant d'Afrique. C'est une plante qui contribue pour faciliter l'accouchement, qui provoque des contractions. Après, il y a pour les pucerons, enfin, il y a plein de choses intéressantes.
Il y a même le papillon qui se soigne.
Okay, il se soigne comment, le
même
papillon?
Même les fourmis.
Ah oui. Les papillons monarques, alors c'est un beau papillon orange, infectés par les parasites, déposent leurs œufs sur des asclépiades de Curaçao afin de les protéger jusqu'à l'éclosion et aussi pour réduire les risques de transmission de l'infection.
Je pense que les scientifiques doivent sûrement s'intéresser beaucoup à tout ça.
C'est subtil.
Merci Nechati.
De rien, de rien.
52 petits mensonges.
Et maintenant, c'est le grand plongeon, le premier pour Emma qui traque. Ça va aller Emma, présente-nous ton livre.
Très bien, très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc, le livre publié en mars 2017 par la maison d'édition Rue du Monde qui se nomme donc 52 petits mensonges et autres vérités. Alors du coup, c'est un album qui... Ce serait plutôt un recueil de poésie sous forme d'album et illustré par l'illustratrice et artiste Evelyne Marie. Et les poèmes sont écrits par David Dumortier. Alors, je ne vais pas m'apesantir beaucoup de temps sur les auteurs. David Dumortier est intervenu de nombreuses fois dans les écoles. a écrit aussi pour la jeunesse. Et Evelyne Marie a fait donc du coup une école d'art et artiste avant d'être illustratrice. C'est l'une de ses nombreuses casquettes, on va dire. Donc du coup, ce recueil de poésie sous forme d'album rassemble des évidences mensongères que l'auteur va détourner, comme la couleur du soleil ou la couleur de l'eau. En effet, il décale nos perceptions du réel et de la vérité pour nous proposer d'autres points de vue ou d'autres analyses sur ce qui nous entoure. Et ce qui est très intéressant, c'est tout le travail du poète et tout ce qu'il va mettre en œuvre pour apporter une autre vision du paysage ou du fonctionnement de l'être humain ou de la vie. Et donc du coup, l'œuvre tourne autour de différentes questions. Par exemple, qu'est-ce que le mensonge et par conséquent, qu'est-ce que la vérité? Quel est le rôle du poète et quel est son rapport au mensonge? Et à l'inverse de, on va dire, des élans lyriques de différents poètes qui réfléchissent à quel est leur rôle par rapport aux autres, là, c'est très accessible et très abordable et le livre est disponible à partir de 7 ans. Et selon moi, c'est aussi intéressant pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes ou autres, je ne sais pas. Et parce que les questions qui sont posées sont des questions essentielles qui ne s'arrêtent pas à un certain âge. Et donc, le livre permet de s'interroger sur sa propre perception de la réalité. Et pour faire ce travail, l'auteur et l'illustratrice proposent des associations d'idées ou d'images qui produisent des situations de cause à effet un peu absurdes, comme par exemple, les hérissons ont des piquants pour peigner l'herbe la nuit. Donc voilà, les piques des hérissons sont associées à une brosse ou à un peigne, et c'est plus du tout pour se défendre. À l'inverse, par exemple, du livre qu'a présenté Najati, c'est pas une explication scientifique et rationnelle, c'est plus une explication détournée et poétique. Et donc du coup, on perçoit une forme d'absurdité poétique qui illustre tout le travail du poète. On revoit par exemple une métaphore avec les étoiles. Je me suis fabriqué un collier avec des étoiles. Comme personne ne les a jamais comptées, personne ne le saura. Et donc tous ces petits mensonges, entre guillemets, utilisent une évidence. Effectivement, personne n'a jamais compté les étoiles. Et une absurdité, on ne peut pas faire des colliers avec des étoiles, on ne peut que les imiter. Et en fait, le poète devient une sorte d'artisan d'une réalité détournée. L'illustratrice la représente sur le papier avec des formes très géométriques et des lignes très abstraites qui permettent aussi au lecteur d'imaginer personnellement ce qu'elle a voulu représenter. Et le lecteur s'approprie tout ça. Voilà.
Super. Evelyne Marie, on la connaît bien. Ça a été une de nos invitées de la fête du livre jeunesse. Elle est venue donc au mois de mai. Et elle fait beaucoup de linogravures et de gravures. Et elle a enchanté les enfants et les parents.
Elle a fait des ateliers parents-enfants qui étaient vraiment, vraiment très appréciés.
Et on a utilisé aussi ce livre au Printemps des Poètes en atelier avec enfants et parents-enfants. Et ça a très bien marché. On a fait ça avec Virginie Gondran de l'association Lanodin. Et moi j'y ai participé. On a écrit chacun un petit mensonge sur un petit papier. On l'a déchiré en 1000 morceaux. On l'a mis au fond de nos poches. C'était vraiment bien. Et c'est vrai, comme tu disais, Emma, ça marche avec les tout petits, enfin les petits et avec les grands. Enfin, c'est la poésie en fait quand ça touche tout le monde. Enfin bon, je dis pas que Mallarmé touche les enfants de 5 ans, mais pourquoi pas. Mais du Mortier touche les grands enfants.
Oui, et moi j'ai participé à l'atelier de Evelyne Marie dans le fête du livre. C'était magnifique d'atelier de gravure. Oui. C'était vraiment magnifique. Il y avait plein des enfants, tu sais, ils étaient vraiment intéressés. Ouais, ouais. C'était magnifique.
Et je trouve, moi, surtout qu'il est, c'est très drôle.
Oui, c'est plein d'humour.
Comme tu disais, c'est l'absurde complet et c'est vraiment très drôle. C'est vrai que ça amuse les enfants, cette complexité du vrai et du faux qu'on mélange.
Oui, c'est ça, parce qu'on ne sait plus en fait.
On ne sait plus où on est.
C'est ça, on ne sait plus si la vérité. Il joue généralement avec ça. Je mens, je ne mens pas. Oui, quand je mens, je dis la vérité.
Il dit quelque chose. Alors, ça ne doit pas être la phrase exacte, mais si je dis un mensonge à l'envers, ça devient
vérité. Oui, voilà.
Il dit ça.
Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement. Elle est aussi sur la. Oui, bien sûr, sur la couverture. Oui, bien sûr.
Merci.
De rien.
Renaillot.
Et maintenant, Daniel, notre dernier coup de cœur.
Alors, le dernier coup de cœur de l'émission, c'est pour Grenouillot. Grenouillot. Alors, Grenouillot est un album écrit par Stéphane Servan et illustré par Simone Réa et publié chez Didier Jeunesse. Alors, Grenouillot, c'est une famille lapin. Il y a un papa lapin, maman lapin, trois petits lapineaux. Et arrive dans cette famille un nouveau-né. Mais un nouveau-né qui est un peu étrange, qui ne ressemble pas vraiment à un lapin. Il n'avait pas de longues oreilles blanches. Il n'avait pas d'oreilles. Il n'avait pas de petite queue ronde. Il n'avait pas de queue. Il n'avait pas de museau. Mais une grande bouche au milieu d'une drôle de tête. Et le seul mot jamais sorti de sa bouche avait été « grenouillot ». Donc, on l'a baptisé « grenouillot ». Bien sûr, monsieur lapin, papa lapin, maman lapin, les petits frères, petites sœurs l'ont aimé tout de suite. Mais les gens, dans la rue, quand ils le croisaient, se questionnaient, faisaient une drôle de tête, le regardaient bizarrement, voilà.
Il n'est pas tout à fait pareil, quoi.
Eh ben non. Et puis alors là où ça s'est un peu gâté, c'est à l'école. Quand il est arrivé à l'école, d'abord les enfants se moquaient de lui dans la cour. Et puis, quand la maîtresse lui demandait par exemple « Combien font 3 noisettes plus 10 champignons ?» il répondait « Grenouillot ». Parce qu'il ne savait dire que ça. Donc à toutes les questions qu'on lui posait, il répondait « Grenouillot ». Pourtant, quand il se regardait dans la glace, il aimait bien. La tête qu'il avait ne se trouvait pas si extraordinaire que ça. Mais un jour, il ne rit plus. Et même, il n'a plus voulu être grenouillot. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand les enfants ne se sentent pas bien? On va voir le médecin. Alors, voilà, toute la famille partie voir le médecin, un peu magicien, au fond du bois, qui le regarde, qui l'ausculte, et qui donne son ordonnance. Une princesse devra embrasser votre fils et il retrouvera peut-être sa forme de lapin. Ça nous rappelle quelque chose, oui. Hein, cette histoire de crapaud, de princesse, de grenouille, de tout ça. Alors donc, tous accoururent pour embrasser notre petit grenouillot. On l'a embrassé, on l'a léchouillé, on l'a bisouillé, mais rien n'y a fait. Et il est resté grenouillot. Pour savoir comment grenouillot retrouva sa joie d'être grenouillot, demandez-le à la lune qui se reflète dans l'étang. C'est elle qui va vous donner la réponse. Alors, un petit mot sur l'illustration. L'illustration est assez figée. On se croirait un petit peu dans un, deux, trois soleils. Quand on a frappé dans ses mains et que les choses s'arrêtent. Il y a de l'expression, mais c'est très figé. Et la deuxième remarque, c'est qu'il n'y a pas de décor. C'est très très souvent sur une page complètement blanche. L'histoire se déroule sans fond. On ne sait pas où on est, on ne sait pas, à part les quelques pages de la fin, où on trouve la lune. Pour le reste, il n'y a pas de décor. Alors, vous l'avez bien compris, c'est un album sur la différence. D'ailleurs, au tout début du livre, sur la page de garde, il est écrit « À ceux qui se sentent différents, à ceux qui se sentent normaux, à celui qui juge. »
Comme ça, tout le monde a son...
Tout le monde a son petit morceau.
Tout le monde a son compte.
Voilà, voilà.
Tout le monde est invité, oui.
Et la dernière petite remarque qu'on trouve dans ce livre, c'est que ce livre, une partie des recettes de ce livre, va à l'association Lire et Faire Lire, qui est une association qui, comme nous,
oui,
s'occupe de faire aimer la lecture aux enfants à travers des bénévoles qui circulent avec des livres. Voilà. Super. C'est un grand format. C'est un livre vraiment très très agréable et les turpitudes de ce pauvre grenouillot nous font quand même le prendre en affection vraiment beaucoup.
Il est très très mignon.
Il est très mignon.
Il est très drôle et très mignon.
Voilà.
C'est écrit par Stéphane Servan, qui est aussi un auteur qui était avec nous au mois de mai.
Tout à fait.
Qui écrit beaucoup pour les plus petits, pour les ados, pour les moyens, et qui écrit très très bien.
Qui écrit même pour les ados aussi. Voilà. Voilà.
Voilà, bah c'était nos quatre derniers coups de cœur que vous retrouverez sur le site. Donc, pour la saison, les comités de lecture et les petits éclats de lire sont terminés. L'association Éclats de lire continue ses activités, en tout cas en partie, notamment dans le cadre de Manosque Vacances, qui est un dispositif municipal qui permet aux enfants de Manosque et alentour de faire des activités diverses et variées au mois de juillet et peut-être au mois d'août. En tout cas, pour Éclats de lire, c'est au mois de juillet. On propose deux activités à la même date, de la semaine du 9 au 13 juillet, le matin de 10h à midi. Il y a une activité qui s'appelle Radio Livre, que Michel anime avec d'autres bénévoles de l'association, et cette année avec Nechati. Il s'agit
d'une activité qui existe depuis très longtemps, où on propose aux enfants de venir avec un livre qu'ils aiment, ou bien c'est des enfants qui sont plus intéressés par la magie de la radio, et à ce moment-là, on leur propose de choisir dans notre stock Éclats de lire un livre, et chacun, ils sont 4, 5, chacun va présenter son livre, va présenter pourquoi il l'aime, et du côté des enfants, avant d'arriver au grand jour de l'enregistrement, c'est vraiment très très intéressant, et à chaque fois les enfants étaient très très contents. Mais les enfants grandissent, et c'est vrai que c'est une activité qui est autour de 10 ans, et je pense que les 12 ans n'ont pas envie de revenir, et,
oui, c'est
et
plutôt les 8 ans les sont 7, un peu petits. 7, 10 ans, enfin...
Mais il faut quand même bien savoir lire. Parce que on va parler aussi de l'auteur, on va parler de la fabrication du livre. L'année dernière, moi, j'ai appris plein de choses sur les mangas, grâce à un petit garçon qui a présenté des mangas.
C'est bien, si on apprend des choses, nous aussi, c'est bien. Voilà, et c'est sur Fréquence Mistral, après, qu'ils viennent enregistrer leur émission. Ensuite, à la même date, toujours donc, du 9 au 13 juillet, il y a une activité théâtre autour des albums. L'idée, c'est de regrouper des enfants et de travailler une activité théâtre autour d'albums, mais tout ça au sein de la maison de retraite Saint-André, c'est-à-dire sous le regard et avec la participation des personnes âgées. C'est aussi une activité qu'on a déjà menée et ça marche très très bien. C'est l'occasion pour les personnes âgées de voir de la jeunesse autour d'eux et ça leur fait beaucoup de bien. Et les enfants sont très à l'aise avec ces personnes qui sont parfois très âgées. Ils sont très à l'aise, ils n'ont pas les mêmes appréhensions ou peurs que nous. Et ça fait des moments très riches avec un petit rendu de spectacle à la fin de la semaine. C'est des activités qui ont lieu le matin, 10h à midi. Donc ça laisse encore l'après-midi pour aller courir... dans les lacs, par exemple. Nager dans les lacs, plutôt.
Pardon. Moi, je voulais rajouter que l'année dernière, j'y ai participé, donc, et qu'il y a eu un petit spectacle avec les enfants et les personnes âgées. Il y a 4 ou 5 personnes pensionnaires de cette maison de retraite qui ont participé au spectacle et qui ont joué avec les enfants, vraiment avec un bonheur, un plaisir. Et les enfants aussi étaient tout à fait ravie de partager ce moment de théâtre avec des grands.
Voilà, ces activités, pour s'y inscrire, il reste des places. Pour s'y inscrire, il faut s'adresser au service de Manosque Vacances en mairie. Et puis, la dernière activité de l'été, elle s'inscrit dans le cadre d'une grande manifestation nationale autour du livre jeunesse, ça s'appelle Partir en livre. L'idée de cette manifestation, c'est d'amener le livre sur des lieux un peu insolites où se trouvent les enfants et les familles pendant les congés. Alors ça peut être en ville, dehors, au bord, sur une plage, dans un centre de loisirs. Nous, c'est donc en plein air, c'est devant la médiathèque d'Herbès, c'est ouvert aux enfants à partir de 6 ans et c'est un atelier mené en duo. Chaque année, on choisit un duo d'illustrateurs ou d'auteurs-illustrateurs. Donc cette année, c'est Raphaël Frière et Zeynep
Perinçek.
Perinçek, oui. Je demande un initiatif parce qu'il est turc, qui ont déjà publié des livres ensemble. Et donc, ils vont mener atelier d'illustration et écriture pour les enfants de 6 à 6-10 ans, 6-12 ans. On peut s'inscrire pour la semaine auprès de Manosque Vincance, mais on peut aussi venir qu'une matinée parce qu'elles vont aménager cet atelier pour que une séance puisse être aussi satisfaisante pour les enfants et qu'ils repartent avec quelque chose dans les mains dont ils sont.
Et puis c'est une manifestation nationale, donc ça se passe dans toute la France.
Absolument.
Et c'est l'idée effectivement que les enfants qui passent, qui sont intéressés, puissent s'arrêter et revenir le lendemain s'ils peuvent. Et on a un grand, grand succès tous les ans.
Oui, oui. Et de plus, ils repartent avec des petits cadeaux.
Oui.
Absolument. Ah oui. Le CNL, le Centre National du Livre, qui lance cette chaque année là depuis 3 ans, 4 ans peut-être, partir en livre, offre des petits cadeaux aux participants.
Voilà.
Ben, merci beaucoup Marisa. On vous souhaite un bon été, on espère vous voir au mois de juillet. Et puis, on reprend les activités dès le mois de septembre. On sera au forum des associations, si vous voulez plus de renseignements. Et puis, on concocte le volet jeune public du Festival des Correspondances qui aura lieu en septembre. Voilà, à bientôt.
Bonnes vacances à tous.
Bonnes vacances,
au revoir.
Au revoir.
À la prochaine.